Bon matin, frères et sœurs de l'Assemblée et ceux qui se joignent à nous, qui ne sont pas nécessairement de l'Assemblée, les YouTubers du monde entier, vous êtes la bienvenue à cette prédication où nous allons parler d'un texte de la parole de Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas accompli. Ce texte a été écrit dans Ésaïe, au chapitre 46, au verset 10. Et c'est exactement ce que notre Dieu a décidé de faire ce matin, de nous annoncer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose qui va arriver. Il a un message. On voit que il y a le messager et l'œuvre du messager. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Dans Malachie, au chapitre 2, à partir du verset 17, jusqu'au chapitre 3, jusqu'au verset 6. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué? » C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient. Dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Un long texte, beaucoup de choses à dire. Et Dieu annonce. Dieu annonce qu'il est fatigué. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Dieu est fatigué. Il ne voit plus les promesses de Dieu. Et au verset 17, Dieu est fatigué. Mais qu'est-ce qui fatigue Dieu? Qu'est-ce qu'il trouve fatigant? Premièrement, il voit que son peuple voit la paille dans l'œil de l'autre sans voir la poutre dans son propre œil. Pour le peuple juif, ceux qui font le mal, ce sont les païens. Vous lisez au verset 17, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. » Il voyait les païens, ceux qui font le mal. Ils voient le mal dans leur vie, mais ils ne voient pas le mal dans leur propre vie. C'est fatigant pour Dieu. Deuxième chose qui fatigue, c'est qu'ils mettent en doute la justice de Dieu. Et au verset 17 encore, il va dire le dernier bout, « Où est le Dieu de la justice? » Troisième chose qui fatigue Dieu, c'est qu'il ne voit plus les promesses que Dieu avait établies depuis longtemps. Les promesses de Dieu ne font plus partie de leur vie. Et Dieu trouve ça fatigant, de répéter et répéter sans cesse. Le peuple regarde les peuples autour d'eux et ils en viennent à la conclusion que ceux qui font le mal, les païens, sont bénis plus qu'eux. Et ça me fait penser au psaume 113. Si vous avez l'occasion plus tard, vous lirez le psaume 113. Dans les 12 premiers versets, il dit, le peuple dit, « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ou il dit un peu plus tard, un peu plus loin, il dit, « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Les yeux étaient portés sur le peuple et les autres peuples, les autres nations et leurs bénédictions. Dans la dernière partie du verset 17, le peuple ne voit pas un Dieu juste à leurs yeux. La question du verset 17 est évidente. Où est le Dieu de la justice? C'est où ça? Et Dieu élabore dans le chapitre 3 toute sa réponse. Il dit, premièrement, comment il va établir sa justice finale vis-à-vis son peuple, vis-à-vis d'eux. Et il va commencer, au chapitre 3, au verset 1, à établir les personnages qui vont faire établir la justice. Et il va annoncer deux messagers. Il va dire, le premier rôle sera d'aplanir le chemin du deuxième. Le premier messager, et on l'a bien reconnu, c'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même cite ce verset dans Matthieu 11-10 lorsqu'il fait la description à la foule qui est Jean et quel est son rôle d'aplanir le sentier. « Voici, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. » Et Jésus dit exactement la même chose. Mais le deuxième messager est défini comme Dieu lui-même qui revient. « Il préparera le chemin devant moi. » Et c'est Dieu lui-même qui parle. Et il porte un nom assez particulier, le messager de l'Alliance. Et fait à noter, c'est le seul endroit où c'est vraiment mentionné, le messager de l'Alliance. Pourquoi ce terme? Pourquoi ce mot, le messager de l'Alliance? Parce que c'est le peuple qui l'a demandé. Ils veulent savoir où est le Dieu de justice. Et Dieu leur présente à ce moment le messager de l'Alliance avec un peu de sarcasme. Il dit, « Et le messager de l'Alliance, que vous désirez? » C'est vous autres qui l'avez demandé. Et je vais vous le donner, et je vais vous le dire. Mais c'est important de comprendre qu'est-ce qu'une alliance? Si c'est le messager de l'Alliance, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est plus qu'un contrat. J'ai signé un bail avec un propriétaire il n'y a pas longtemps et je n'avais pas besoin de le connaître. J'ai juste mis mon nom dans le bas d'une feuille puis ça s'est réglé. Oui, j'ai des obligations à rencontrer, lui aussi d'ailleurs, mais ça s'arrête là. J'ai aucune relation avec cet homme-là et il n'a aucune relation avec moi. Une alliance, c'est plus que ça. Une alliance, c'est une union ratifiée, approuvée, affirmée, confirmée. Par un signe ou par un serment. C'est-à-dire qu'il doit y avoir d'abord une relation. Elle est ratifiée par un signe, elle possède des obligations de part et d'autre. Et elle est redevable à un Dieu protecteur de l'Alliance. Dieu a fait plusieurs alliances avec son peuple. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance mosaïque, l'alliance sacerdotale et l'alliance davidique avec David. Et aujourd'hui, celle qui nous intéresse s'appelle la Nouvelle Alliance. Dieu a fait une alliance et de plusieurs manières. Et voici un exemple d'alliance très répandu sur cette terre. Le mariage. Le mariage est essentiellement une alliance. une alliance que nous prenons entre deux personnes, ou pas deux groupes de personnes pour le mariage, là, deux personnes, qui possèdent un signe et ou un serment. Et on peut voir ce signe, ce serment-là dans les vœux. Lorsque vous vous mariez, vous avez des vœux à prononcer. Et vous avez aussi des obligations. Et lorsque vous vous êtes marié, il y a probablement le célébrant a dû donner un texte, a dû dire quelque part, voici de ce que vous êtes obligé de faire. Et vous avez des obligations de part et d'autre. Et vous êtes redevable à un Dieu responsable, protecteur de l'alliance. Vous êtes responsable envers la personne que vous mariez, mais vous êtes redevable à Dieu que vous agissez bien ou non. Et tout le principe de l'alliance est là. Dans cette nouvelle alliance que Dieu nous donne, Jérémie 31, de 31 à 34, nous donne les termes de cette nouvelle alliance. « Je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est une alliance avec des conditions, des obligations et aussi des signes. La loi est inscrite dans le cœur maintenant. C'est les nouveaux signes de cette nouvelle alliance. Si cette nouvelle alliance était originalement pour Israël, Dieu désire que toutes les familles de la terre soient bénies et profitent de cette alliance. Par l'intermédiaire d'Israël, sous l'influence d'Israël, il va dire à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dieu va dire la même chose à Jacob. Par l'intermédiaire d'Israël, Dieu veut créer cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance a besoin d'être ratifiée, a besoin d'être confirmée. Le texte de Malachie nous donne le messager de l'alliance. Celui qui va confirmer cette nouvelle alliance. Bien sûr, on peut comprendre que ce messager, c'est Christ, qui est venu et qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voici le messager de l'alliance. Et le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme l'Épître de Timothée, 1 Timothée 2, 5, nous le dit. Jésus ratifie cette alliance par sa mort. Et voilà pourquoi il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sein. » Il ratifie cette alliance. Il est celui sur lequel l'alliance repose. Et remarquez que cette nouvelle alliance repose exclusivement sur l'action de Dieu. Dans tous les textes qui traitent de la nouvelle alliance, il est écrit qu'il agit. Je donnerai, je ferai. Et dans Ézéchiel, comme exemple, dans Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Tout vient de lui. Tout part de lui. Et c'est en lui que nous devons référer pour faire partie de cette nouvelle alliance. L'Église est présentement dans cette nouvelle alliance. Celui qui annonce le salut annonce la nouvelle alliance. D'ailleurs, plusieurs versions de la parole de Dieu, au lieu d'écrire l'Ancien et le Nouveau Testament, peuvent écrire l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Nous avons ce cœur nouveau. Ceux qui font partie de la Nouvelle Alliance ont ce cœur nouveau. Mais nous avons aussi l'Esprit en nous qui permet, qui nous donne la capacité d'observer les ordonnances, d'observer, de suivre les règles. Rappelez-vous, tout vient de lui. Si les bénédictions de la Nouvelle Alliance sont applicables à l'Église, si on peut dire quelque part que nous sommes maintenant une nouvelle créature et nous sommes dans cette Nouvelle Alliance, des promesses nationales et physiques concernant Israël ne sont pas encore réalisées et doivent être mises en place. Et cela se fait au retour du Seigneur. Il y a eu un messager, Jean-Baptiste, et ensuite il y a le messager de l'Alliance qui est venu comme sauveur et Seigneur. Et ce même messager revient comme juge. Et c'est exactement à cet endroit que se situe le texte que nous avons, que venons de lire. L'œuvre du messager. Maintenant que nous savons qui est le messager, nous devons connaître quelle est son œuvre. Et à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, texte assez difficile, qui ne semble pas être doux. C'est dur, c'est inflexible. Qui pourrait soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, quand il sera? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assaira, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On pourrait voir quelque chose qui est condamnable. C'est dur. C'est difficile. Sauf qu'il nous apprend ici que Dieu est patient, lent à la colère. Il donne le temps. Il prévient. Il dit quelque part, voilà où est-ce que je m'en vais. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez accepter. Car c'est lui qui est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va établir sa justice finale. Et déjà, il parle d'actions qui vont achever les termes de la nouvelle alliance. La première action de ce messager de l'alliance est une purification. Il va épurer son peuple. Il va le rendre capable de suivre les lois. Le feu du fondeur, et il donne deux exemples, le feu du fondeur qui permet d'enlever ce qui est impur dans l'or et l'argent. Il veut avoir de l'or et de l'argent pur. Il veut avoir des cœurs purs. Et la deuxième image, c'est la potasse. La potasse qui est un savon très puissant qui enlève les taches et qui est tellement puissant qu'il fait en sorte que les peaux et les tissus rétrécissent au contact de la potasse. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens qui utilisent ce savon-là des foulons. Dieu semble dire à la fin du verset 3 que la purification est une exigence de la présentation des offrandes. Juste. Ou des offrandes avec justice. Si moi, je suis dans la nouvelle alliance, je dois purifier, je dois me purifier dans cette nouvelle alliance. Mais comment je me purifie? Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, tout vient de lui. Je ne peux pas me purifier par moi-même. Il est impossible. Par contre, je peux confesser et me repentir de mes péchés et de mes fautes. Et je n'ai pas à demander pardon à Dieu, parce que ce pardon-là m'est déjà accordé. Si je vous dis que je vous donne quelque chose, puis si vous me dites, tu me le donnes-tu? Oui, je te l'ai donné. Oui, mais tu me le donnes-tu? Mais je te l'ai déjà donné. « Oui, mais tu me l'as-tu donné? »« Oui, je te l'ai donné il y a un an. »« Oui, mais tu me le donnes... » Arrête, je te l'ai déjà donné. Nous ne pouvons plus demander pardon à Dieu. Ce pardon-là est déjà accordé. Par contre, je peux confesser mes fautes. Je peux confesser les fautes que je suis conscient. Il y a des fautes à laquelle je suis inconscient. Mais je peux confesser les fautes de laquelle je suis conscient. Et 1 Jean, au chapitre 1, verset 9, nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La purification vient avec vient de la confession, la reconnaissance de nos fautes. Je reconnais, ô Dieu, que c'est toi qui es blessé, qui es offensé dans mes péchés. Je reconnais que je ne te respecte pas lorsque je pêche. Pourquoi la confession plus que le pardon? Parce que la confession devrait être normalement plus spécifique. Je confesse quelque chose de spécifique. Je confesse telle action. Je confesse telle pensée. Je confesse telle inaction. Mais je suis plus spécifique. Remarquez dans le psaume 51, David ne parle pas de pardon. Il va dire au chapitre, malgré la gravité de son péché, David ne demande pas pardon. Il reconnaît ses transgressions. Il sait que son péché est devant lui. Il le sait. Il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il demande d'être lavé complètement de son iniquité. Purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Je sais qu'est-ce que j'ai fait de mal et je te le confesse. Et il sait que c'est ça qui fait un obstacle à son service et à son adoration. Mais si nous revenons au texte de Malachie, le système d'offrande dans toutes les alliances est un sujet important. Israël présentera des offrandes avec justice. L'Église actuellement, dans cette nouvelle alliance, a aussi des offrandes à faire. Une offrande. Dieu ne me demande pas d'immoler un bœuf ou une brebis ou une colombe. Dieu ne me demande pas ça aujourd'hui. Dieu me demande d'offrir nos corps. Comme dans Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ou même dans 1 Pierre, lorsqu'il dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'on offre nos corps à Dieu? Comment est-ce que je peux offrir mon corps? Les actions de mon corps, les inactions de mon corps, les pensées qui déterminent finalement les actions de mon corps. Dans une offrande, il devrait y avoir une recherche de ce qui est agréable à Dieu. Offrir à Dieu devrait avoir un coût. Comme David disait à Aravna dans 2 Samuel 24, Aravna voulait donner les bœufs, vous donner le char et tout le nécessaire pour que David puisse faire une offrande à Dieu. Il voulait le donner. Je te le donne. Afin que tu puisses faire une offrande. Et David dit non, 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 non. Je ne veux l'acheter de toi à prix. Je veux l'acheter de toi au prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Il y a un coût à offrir quelque chose à Dieu. Offrir à Dieu suit le même modus operandi que d'offrir quelque chose à une personne de notre entourage. Si je veux faire un cadeau à quelqu'un, il devrait être volontaire, avec intention, être le fruit d'une recherche et devra m'avoir coûté quelque chose. Pour faire un cadeau à quelqu'un, je devrais le faire de bon cœur, que ce soit intentionnel, que ce soit le fruit d'une recherche. Qu'est-ce qui ferait plaisir à cette personne-là? La personne aujourd'hui qui voudrait m'offrir une tondeuse à gazon parce qu'il m'aime bien, j'ai plus de gazon à tondre. Oubliez ça. Vous devriez rechercher qu'est-ce qui me ferait plaisir, comme nous devons rechercher qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu. Et ça devra coûter quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut retrouver. La question est, qu'est-ce qu'une offrande avec justice? Qu'est-ce qui rend une offrande juste? La réponse est toute simple. C'est quelque chose que Dieu a demandé depuis tout le temps. Et référez-vous à 1 Samuel 15, 22, lorsqu'il dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » L'obéissance en elle-même est déjà une offrande juste. Elle possède tous les critères d'une offrande agréable à l'Éternel. Elle est volontaire, elle est intentionnelle, elle est recherchée et elle a certainement un coût, l'obéissance à sa parole. Il y a quelques années, lorsque nos enfants étaient tout petits, lorsque nous élevions nos bambins, ils ont voulu nous faire plaisir. Ils nous ont demandé, une année durant la période des fêtes, qu'est-ce que l'on voulait comme cadeau. Ils ont dit, « Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau pour Noël? » On a répondu, « On veut de l'obéissance. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. J'ai dit, « Nous voulons de l'obéissance. » Ils ont resté sans un mot. Ils n'ont pas dit un mot. La deuxième année, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Et là, ils nous ont dit, si vous voulez de l'obéissance, oubliez ça! Vous n'aurez pas. Ce qu'on aurait aimé entendre, et probablement, face à notre comportement, qu'est-ce que Dieu aimerait entendre, je crois. On ne peut pas vous garantir l'obéissance parfaite, mais nous allons faire un effort volontaire. On va faire un effort avec notre volonté. On va y mettre une volonté intentionnelle. On va être intentionnel dans notre parcours d'obéissance, même si on n'est pas parfait. Mais on va rechercher qu'est-ce que ça veut dire, obéir. On va faire attention à ce que l'on va faire. On va rechercher ce qui vous ferait plaisir. Et même si cela nous coûte quelque chose, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu demande à son peuple. Il demande de faire des offrandes avec justice dans le circuit d'obéissance. Or, Dieu sait très bien qu'on n'aura jamais une obéissance parfaite. Mais Dieu demande une offrande volontaire, intentionnelle, recherchée et qui a un coût. L'obéissance nous amène à être agréablement utile à l'œuvre de Dieu. Finalement, au verset 5, Dieu complète sa réponse à la question du chapitre 2, verset 17. Où est le Dieu de justice? Et Dieu répond, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai pour témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. » Où est le Dieu de justice? Il vient. Il s'approche d'eux, non plus comme un sauveur doux et humble de cœur que nous connaissons aujourd'hui, mais comme un juge qui désire établir la seule véritable justice qui pourrait être faite sur cette terre. Nous vivons sur une terre où ce que l'injustice est courant. C'est continuel et c'est tous les jours que nous regardons, nous ouvrons notre téléviseur et nous entendons des injustices, nous écoutons des injustices, nous vivons des injustices. Mais Dieu viendra établir sa justice, la seule véritable justice. Si nous connaissons aujourd'hui un Dieu parfait dans son salut, et nous le connaissons pour l'éternité car nous lui avons donné notre vie, nous avons déjà dans notre cœur ce messager de l'Alliance. Si nous avons cela, nous verrons ce jour-là, nous qui serons avec lui, un Dieu parfait dans son jugement et il va établir une justice parfaite. La liste des péchés que vous voyez là, elle est annoncée de tout temps dans toute la parole de Dieu. Dieu va y mettre un terme. Dieu va venir dire à quelque part, « Rends compte de ce que tu as fait ici sur la terre. » Et ce jour-là approche. Ce jour-là va venir. Nous vivons non pas dans l'espoir qu'il va venir, nous vivons dans l'espérance que ce jour-là va être là un jour. Nous avons cet espoir certain. Au début du verset 5, il dit « Je m'approcherai de vous », c'est-à-dire des gens de son peuple, d'abord étant donné leur responsabilité et aussi parce que c'est eux qui posent la question « Où est le Dieu de justice ?» Parce que ce peuple-là sera encore le peuple terrestre choisi de Dieu. Le peuple juif existe encore, il va exister jusqu'à son retour et même plus tard. Mais ce jugement touchera aussi les nations. Il établira la justice qui vient d'en haut. Et au verset 6, il montre la grâce que Dieu a pour son peuple. Et le nom qu'il donne à son peuple est notable, enfant de Jacob. Jacob ayant été plus souvent indigne de l'alliance avec Dieu, montre l'incapacité de l'homme à suivre Dieu par lui-même. Tout vient de Dieu. Mais en même temps, ça nous montre au peuple de Dieu la fidélité de Dieu, en sorte que malgré leur désobéissance et leur infidélité, malgré qu'ils méritent la mort, il dit ici, vous n'avez pas été consumés. Je vous ai gardé en vie, malgré tout ce que vous pouvez faire, malgré les atrocités que vous pouvez faire. Frères et sœurs, Dieu nous parle à travers son peuple. On n'est pas Israël, on n'a pas le ministère d'Israël. On n'a pas le même ministère. Israël étant le peuple terrestre, nous sommes le peuple céleste. Mais comme peuple céleste, comme fiancé et bientôt épouse de Christ, bénéficiaire des bénédictions spirituelles et de la nouvelle alliance, nos standards ne sont plus ceux du monde, mais ceux de la grâce. Nos standards sont ceux de la Bible, de ce cœur nouveau qui nous a été donné par Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu soit content de notre vie, soit content des efforts que nous mettons dans notre vie pour lui obéir, par la grâce de Dieu et pour sa gloire, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, frères et sœurs.